Les affamés.
Notre histoire se passe au cœur du Saint-Clinel, un cirque de montagnes qui enserre une vaste et belle forêt. Cette dernière s'épanouit entre de hautes parois rocheuses, où s'accrochent des forêts de pins et de chênes pubescents.
Il fut un temps où cette forêt était peuplée d'animaux jardiniers qui cultivaient des jardins foisonnants au bord de la Vèbre, la rivière riante qui traverse le Saint-Clinal. Parmi les parterres de fleurs et de légumes, d'étranges formes vaporeuses surgissaient parfois. Les habitants du Saint-Clinal appelaient lambeaux ces fantômes du monde des humains qu'ils retrouvaient plantés dans la terre et ondoyant au vent. Les animaux écoutaient leurs histoires et prenaient soin d'eux jusqu'à ce qu'ils retrouvent un jour la force de retourner dans le monde des humains. C'était une belle nuit d'été étoilée, bercée par le chant des grillons. Hector le Rouge-Gorge avait profité de la clarté du ciel pour revoir ses constellations depuis le petit observatoire astronomique qu'il s'était aménagé à la cime d'un grand hêtre. Alors qu'il rejoignait son nid au milieu de la nuit, les lambeaux surgirent le long de la treille au volubilis, appelée aussi liseron bleu dans le Saint-Clinal. À la lueur de la lune, Hector aperçut d'étranges silhouettes blafardes qui se contorsionnaient en silence. Elles étaient une dizaine et d'autres encore sortaient de terre en s'enroulant sur elles-mêmes, comme les tiges des volubilis autour des arcades de la treille. Mais loin du mouvement souple des trompettes bleues qui s'étiraient vers le ciel pour s'abreuver de lumière, les silhouettes se tordaient en se recroquevillant sur elles-mêmes. Hector vint se percher sur un vieux poirier près de la treille pour les observer de plus près. Leurs formes se précisaient peu à peu, à mesure que s'épaississaient leurs racines plantées dans la terre du Saint-Clinal. L'oiseau s'ébouriffa soudain de tout son plumage quand se dévoilèrent leurs corps nus cadavériques, qui n'avaient plus que la peau sur les os. Leurs côtes saillaient atrocement autant que les os de leurs joues, et au fond des grottes profondes de leurs orbites brillaient des yeux hagards. Leurs mâchoires grandes ouvertes étiraient à l'extrême la peau livide de leur visage et se tendaient vers le ciel en poussant des cris inaudibles. On aurait dit une foule d'affamés qui gémissaient en silence au milieu du chant imperturbable des grillons. Hector sursauta soudain, surpris par le cri rauque d'un lambeau qui se tordait à quelques mètres de lui, le corps enchevêtré dans les volubilis. Il s'envola aussitôt pour se percher sur la treille au-dessus de lui. Il poussait maintenant de petits gémissements étouffés, entrecoupés par quelques mots distincts, comme un malade qui délire en dormant. Entre les deux arcs profonds de ses clavicules, il vit frémir au creux de sa gorge. Il y avait là comme un marécage de sons bouillonnants, des paroles coincées qui n'attendaient plus que la force du souffle pour résonner à l'air libre. Il tendit l'oreille et distingua dans un soupir.
« J'ai faim, j'ai si faim !»
C'était bien cela, les silhouettes étaient affamées et tendaient leurs bouches vers le ciel pour implorer à manger. Hector pensa aux seaux remplis de purins d'ortie qui traînaient ici et là dans les jardins, mais il était incapable de les soulever, et tous les animaux costauds du Saint-Clinal étaient en train de dormir. Comment soulager ces pauvres lambeaux en attendant leur réveil ?
« Mais oui ! » s'écria-t-il, « je vais leur donner la béquée !»
Il fila aussitôt en direction du tas de compost qui grouillait de vers de terre et revint le bec plein à ras-bord au-dessus des lambeaux. Ils devaient bien être maintenant 30 au total, mais par lequel commencer ? Ils avaient l'air d'avoir tous si faim. Hector se mit en vol stationnaire au-dessus de l'un d'eux qui avait les jambes comme deux baguettes prêtes à se briser. Il lâcha un verre dodu qui tomba tout droit dans sa bouche. Surpris, le lambeau l'avala en déglutissant bruyamment. Il resta quelques secondes immobile, l'air perplexe, puis se remit à implorer à manger la bouche grande ouverte. Hector s'activa tout le restant de la nuit à nourrir les affamés, ramassant des vers là où il pouvait, dans la terre des jardins et dans le bel humus brun de la forêt. Le jour se leva enfin, amenant au jardin les animaux les plus matinaux. Raguse le castor et les écureuils Mano et Chafouin s'approchèrent de la treille au volubilis.
« Ah, quel soulagement de vous voir !»
s'écria Hector. « Je suis épuisé. J'ai volé toute la nuit pour donner la béquille à ces lambeaux affamés, mais rien n'y fait. Ils ont l'air d'avoir toujours aussi faim. »
Les lambeaux se tordaient sur eux-mêmes en gémissant la bouche grande ouverte.
« Mais depuis combien de temps n'ont-ils pas mangé ?» demanda Mano stupéfait. « Ils sont vraiment squelettiques ?»«
Je ne sais pas, mais en tout cas, il leur faudrait des bœufs entiers pour être rassasiés. Je leur ai donné une quinzaine de vers chacun et pas le moindre signe d'apaisement. »
Raguse bouffa doucement.
« Ce n'est peut-être pas avec tes vers de terre qu'ils vont avoir leur compte. Tu fais 20 grammes et ils devraient peser au moins 50 kilos s'ils mangeaient à leur faim. Bon, je vais leur pêcher des poissons dans la Vèbre. »
Nous, on court appeler les écureuils du Saint-Clinal pour rassembler nos réserves de noix, s'écria Mano en détalant avec chafouin.
Quelques heures plus tard, un grand remue-ménage faisait tanguer les trompettes bleu-azur qui s'étiraient vers le soleil. Une multitude d'animaux allaient et venaient en lançant toutes sortes de nourriture dans les bouches affamées. Des bouts de noix et de noisettes jetés par les écureuils perchés sur la treille, des poissons pêchés par les castors et les hérons confiés aux oiseaux qui les lâchaient en plein vol au-dessus des lambeaux, des morceaux de carottes et de racines sauvages apportés par les lapins, et des perles de miel que les abeilles égrenaient en volant. Quand le crépuscule commença à rougir les falaises du Saint-Clinal, les animaux cessèrent de nourrir les lambeaux. À leur grande déception, ils n'avaient pas le moins du monde l'air rassasiés et continuaient à gémir en se tordant de faim.
« Après tout ce qu'on vient de leur donner, mais ils ont un trou à l'estomac !»
s'écria un héron cendré en faisant claquer son long bec. Il avait bien dû pêcher pour les affamer une cinquantaine de truites. Les animaux se regardèrent l'air désolés. Azur, un joli papillon bleuté, suggéra alors de sa petite voix flûtée.
« La nourriture ne les requinque peut-être pas tout de suite. Ils ont sûrement besoin d'un temps de digestion. »
Sur cette parole d'espoir, les animaux se retirèrent dans leur terrier et leur nid et s'endormirent bien vite après cette journée éreintante. Les jours suivants, les animaux firent une liste de toutes les choses comestibles du Saint-Clinal et les essayèrent les unes après les autres. Mais aucune ne parvint à rassasier les lambeaux. Le chamois Roche-Colombe suggéra alors de faire cuire ce qu'on leur donnait, et pendant plus de 15 jours, un feu brûla continuellement au cœur des jardins, dispersant dans l'air de délicieux fumets de légumes bouillis. Mais rien n'y fit, même les conseils du grand chêne, le gardien de la forêt, qui avait pourtant souvent raison. S'ils restaient toujours aussi squelettiques, les affamés avaient cependant retrouvé un peu de souffle, et les gémissements étouffés du début étaient devenus pour certains des cris déchirants qui répétaient sans cesse
« J'ai faim ! J'ai faim !»
Au cœur de l'été, alors que les papillons atteignaient leur apogée en nombre et en diversité, Azur avait l'habitude d'organiser avec ses congénères ses fameux « commandos poétiques ». Il réunissait ses amis Macaon, Proserpine, Flambé, Citron et autres Apollon, et ils se mettaient à voler en bande dans le Saint-Clinal pour surprendre les animaux qu'ils rencontraient en leur soufflant des poèmes à l'oreille. Les papillons étaient réputés pour leur sensibilité à fleur de vent qui leur permettait d'entendre les poésies apportées par le Mistral. Ils les mémorisaient et s'amusaient ensuite à en réciter des bribes en essayant de les lier entre elles comme un chapelet de poèmes. Après avoir bercé le castor Raguse endormi sur le rivage de la Vèbre, ils passèrent au-dessus des lambeaux affamés.
« Tiens, dit Azur, ça pourrait peut-être leur plaire, qui sait ?»«
On peut toujours essayer, répondit Espoir, un beau flambé blanc tigré de noir. »
Un tourbillon scintillant de couleurs s'abattit alors entre les corps gémissants. Les papillons virevoltaient d'oreille en oreille. Du bruissement feutré des poèmes chuchotés surgissaient certains mots clairs qui résonnaient dans l'air. Azur souffla près d'un visage.
« Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers. Picoté par les blés, fouler l'herbe menue, rêveur. Rêveur !
Les enfants qui trouvent tout dans rien !» rebondit un petit citron virevoltant.
Les grandes personnes qui ne trouvent rien dans tout en ont perdu le souvenir.
Souvenir !
Que la montagne est belle, poursuivit le flambé en glissant dans l'air.
En voyant un vol d'hirondelles, rêver très haut pour ne réaliser trop bas.
Bas, ici bas !
Le monde ne mourra par manque de merveilles, souffla un bel Apollon sur une épaule décharnée, mais par manque d'émerveillement.
Veillement, veille !
Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, chantonna une Proserpine à l'orée d'une oreille. Rien ne sert de courir, il faut savoir vers où.
Où ?
De terre, un rat sortit entre les pattes d'un lion, continua un Macaon sur une pommette.
L'époque résonne de portes closes et ça dit non avec la tête. Mais oui avec le cœur, on a souvent besoin d'un plus petit que soi.
Les papillons se posèrent en haut de la treille pour observer l'effet de leur bourrasque poétique sur les lambeaux. Ils les virent pour la première fois fermer la bouche et mâcher lentement l'air ébahi. Des voix s'élevèrent parmi eux.
Comme c'est bon. Merci, merci, quel festin. Encore une cuillère, s'il vous plaît.
Les lambeaux cessaient de gémir et parlaient enfin. Les papillons volèrent aussitôt prévenir les autres animaux. Quand il vit les lambeaux l'air si apaisé, Manon s'écria ravi.
Mais c'est ça qu'il leur fallait, et nous qui les gavions de légumes et de graines.
Comme pour répondre à Manon, un des affamés lança de sa voix rocailleuse.
Vous savez ce qu'on nous répond quand on se manifeste? Eh bien, on nous dit. Mais non, tu n'as pas faim, c'est dans ta tête.
Un autre affamé au ventre gonflé par la faim renchérit.
Ou alors ils nous disent, il y a d'autres priorités plus vitales que vous. Sur la pyramide des besoins, vous êtes tout en haut. Mais vous croyez que c'est la fête, la prospérité pour tout le monde? Qu'on peut vous nourrir comme ça, tout bout de champ, alors qu'il faut serrer la ceinture?
Un troisième affamé au crâne pelé continua.
Oui, et ils essaient de nous faire taire en nous balançant tout un tas de choses indigestes. Les produits de consommation, comme ils disent. Nous, on les appelle bourratifs, parce que ça remplit sans nourrir. On ne mange pas de ce pain-là, nous.
Un autre affamé s'indigna.
Parfaitement. Et quand il y a des mets alléchants autour de nous, le normopathe réprime notre élan.
S'exclama-t-il en faisant trembler la peau flasque qui pendait aux os de ses bras.
Il nous réduit au silence en criant « Ce n'est pas important que tu aies faim !»
« Le normopathe ?»
demanda Cuspo le pic noir, sa calotte rouge émergeant entre les trompettes bleues des volubilis.
« Oui, c'est le maître des normes qui impose sa dictature à l'intérieur de chaque humain, » répondit l'affamé au crâne pelé. « Il est devenu complètement obsédé depuis que la société humaine semble avoir perdu la boule. »«
Perdu la boule ?»
répéta l'écureuil chafouin en se grattant la crinière. Il avait entendu quantité d'expressions humaines depuis que les lambeaux surgissaient dans le synclinal, mais jamais celle-ci.
« Oui, parfaitement !» continua le lambeau à la peau flasque. « Elle court très vite dans tous les sens et on ne sait vers où !»
L'affamé à la voix rocailleuse reprit.
« La mission du normopathe, c'est justement de nous faire taire pour que ça aille plus vite. Parce que, voyez-vous, nous sommes des petits grains de sable qui ralentissent le grand remue-ménage des bourratifs. »
« Bah oui !»
répondit l'affamé au ventre gonflé.
« Si on recommence à se mettre à table, si chacun y met du sien, il va de sa petite faim. Mais on n'a pas fini. Chaque seconde compte pour faire tourner le grand remue-ménage. »
Les animaux écoutaient les yeux écarquillés, s'efforçant de comprendre ce qu'était cet étrange dictateur qui faisait la loi à l'intérieur des humains.
« Mais vous n'avez vraiment rien à manger ?»
reprit Mano en fouettant l'air de sa belle queue rousse en panache.
Si, mais il y a tant d'obstacles pour s'asseoir à la table,
s'exclama l'affamé au crâne pelé.
La course en tous sens ne laisse plus le temps de nous nourrir. Plein de bons plats sont mis sous cloche par tout un tas de procédés, et cette vieille rengaine de la pyramide des besoins nous fait passer à la trappe.
L'affamé à la voix rocailleuse continua.
Et la dictature du normopathe s'est étendue à tout, même au moment où nous devrions enfin manger.
Sa voix résonne à longueur de temps pour rappeler les gestes tarifés, les idées adaptées, le timing, le planning, les sourires fins et les mots vides, toute cette mascarade à la gloire des bourratifs.
Et cet air désolant de fantôme de passage ou de bourré potentiel qu'il faut afficher en public,
s'indigna un autre affamé.
Tous ces faux-semblants qui donnent le change en nous étouffant.
Moi, je suis sûre que le normopathe a un idéal caché,
continua d'un air malin l'affamé au crâne pelé.
Au fond, il veut que les humains ressemblent à leurs machines, qu'ils aillent aussi vite qu'elles, qu'ils soient aussi déterminés. S'ils pouvaient être faits de rouages mécaniques bien huilés, qui ne laisseraient place à rien d'autre, mais qu'ils seraient contents.
Depuis ce jour-là, les animaux se relayèrent chaque jour auprès des lambeaux pour les nourrir.
Les écureuils les faisaient swinguer au rythme endiablé de leur tam-tam en coque de noix. Les oiseaux leur offraient de merveilleux balais aériens, en particulier les grands corbeaux noirs qui s'ébattaient en pirouettes acrobatiques entre les vols lents et gracieux des aigrettes blanches de la vèbre. Couspo, le pic savant du Saint-Clinal, leur donnait des conférences sur l'écosystème de la forêt et la cohorte des papillons les régalait chaque jour de commandos poétiques fulgurants et soudains. Même les couleuvres d'Esculape s'y mirent, en leur enseignant l'art du yoga qu'elles pratiquaient depuis leur naissance et qu'elles transmettaient aux animaux stressés, comme les lièvres et les campagnols qui malmenaient leur corps à force de courir en tous sens. Les lambeaux apprirent avec elles les mouvements de contorsion relaxants qui dynamisent le souffle et apaisent l'esprit. Et tous les soirs, les animaux allumaient le feu de la veillée au pied de la treille. Les lambeaux raffolaient des histoires du Saint-Clinal qu'ils trouvaient très nourrissantes. Quand l'automne commença à flamboyer dans les feuillages, les lambeaux avaient déjà repris beaucoup de poids. Une fine couche de graisse adoucissait les contours anguleux de leur silhouette. Des cheveux avaient repoussé sur les crânes pelés et les œdèmes aux chevilles, aux mains et au ventre s'étaient lentement dégonflés. Les animaux estimèrent bientôt que les lambeaux étaient suffisamment ragaillardis pour couper leurs racines et les laisser aller et venir librement dans le Saint-Clinal. Une fois libérés, ils se mirent à courir en tous sens, ivres de joie dans cet espace fourmillant de nourriture. Ils en trouvaient un peu partout en furetant, sous le tapis des feuilles de la forêt, accrochés aux branches des arbres, entre les roseaux de la vèbre, au fond des grottes, sur les hauteurs des trois becs. Au pied d'un érable rougeoyant, un des affamés souleva un tronc moussu et une chanson savoureuse s'en échappa.
Soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales.
Elle tourbillonna un instant parmi les feuilles rouges, puis s'envola en chantonnant. Un autre affamé trouva dans un roncier un pavé bleu sur lequel étaient gravés ces délicieux cris du cœur. « Plutôt la vie, l'imagination au pouvoir !» Un autre encore déboucha dans une clairière lumineuse où virevoltaient des libellules qu'il prit pour des fées. Il s'assit dans l'herbe et elles lui rejouèrent le songe d'une nuit d'été, ce délicieux conte qui l'avait si longtemps nourri. Il quitta la clairière tout ému en repensant à cette phrase qu'il gardait en mémoire. Ils ont échoué car ils n'ont pas commencé par le rêve. L'affamé à la voix rocailleuse, féru d'astrophysique, s'aventura un après-midi avec les couleuvres devenues ses amis en haut du grand être pour découvrir l'observatoire d'Hector. Il commença à escalader l'étrange échelle en corde qui montait en s'enroulant autour du tronc. Il se rendit bientôt compte qu'elle suivait un chemin de mots gravés dans l'écorce qui déployait une phrase jusqu'à la cime. Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Quand il arriva sur la petite plateforme de l'observatoire, il admira la belle carte des constellations que le rouge-gorge avait tendue entre deux branches. Sur une grande ardoise au-dessus d'elle se déployait le vol d'un bel oiseau blanc dessiné à la craie sous lequel ondoyaient ces mots. L'imagination est le ciel de la liberté. Un jour, alors qu'ils pique-niquaient tous ensemble près de la treille au Volubilis, un lambeau se mit à expliquer à Raguse ce qu'était la pyramide des besoins chez les humains. Un autre lambeau s'indigna alors. « La pyramide des besoins ? Mais parlons-en ! Peut-être que si on nous nourrissait tous plus souvent, les humains communiqueraient mieux entre eux. Ils deviendraient certainement plus sages et se partageraient mieux les choses. Et il n'y aurait plus autant de pauvres affamés à l'esprit totalement accaparé par leurs besoins de base bafoués. »
« Bien dit !» renchérit le lambeau à la voix rocailleuse. « Une humaine très clairvoyante a dit une fois qu'à force de ne plus nous nourrir, les humains perdent leur capacité à se voir comme égaux les uns les autres. Ils en arrivent à ne plus se respecter du tout. Ça peut aller jusqu'aux pires atrocités. Des choses, mais des choses inimaginables !» continua un autre lambeau. « Parce que justement, ils n'imaginent plus ce qu'ils détruisent !»
Ils restèrent un instant en silence, une rafale de mistral bruissant dans les feuillages.
« Mais quel festin avec vous, mes amis !» reprit le lambeau à la voix rocailleuse en souriant aux animaux. Vous faites vos récoltes en récitant des poèmes, vous construisez des huttes en chantant, vous restaurez vos corridors en jouant, vous organisez la vie du Saint-Clinal en faisant suivre vos réunions de veillée aux histoires. Avec vous, on a vraiment les pieds sur terre et la tête dans les étoiles.
Son envolée lyrique fit frémir de plaisir Rosie, une jolie Rosalie des Alpes qui adorait être emportée par la fièvre des poètes. Elle n'arrêtait pas de tanner Azur dès qu'elle le croisait pour qu'il lui récite par les soirs bleus d'été. Dans l'après-midi, Manon emmena 4 lambeaux découvrir le travail des termites, réputés dans tout le Saint-Clinal pour leur participation essentielle à la fertilité de la terre. Ces sortes de petites fourmis blanches avaient le don rare de digérer le bois, en redonnant à la terre des sels minéraux qui lui étaient essentiels. Devant un vieux tronc grouillant de termites, Manon expliqua au lambeau. Les termites s'échangent la nourriture. Elles passent par tous les estomacs de la colonie en quelques jours et profitent à tout le monde.
« Ça alors, c'est incroyable !»
s'exclama le premier lambeau l'air ahuri. Et les termites ont un jabot social rempli des aliments qu'ils régurgitent pour leurs congénères qui n'ont pas l'énergie ou la capacité de se nourrir par eux-mêmes. Quand ils ont faim, ceux-là font des caresses avec leurs antennes pour demander un peu de nourriture. Ils observèrent en silence deux termites s'échanger du suc gluant de mandibule à mandibule. Le deuxième lambeau souffla alors. « Nous, on ne partage plus ce qui nous nourrit. C'est comme si on ne savait plus comment faire. »
« Il a raison, » continua le troisième.
« Quand on est saisi par la beauté d'un coucher de soleil qui embrase le ciel, on aimerait le partager, même avec des inconnus. Eh bien non, chacun continue son chemin tête baissée en jetant des regards furtifs au soleil.
Le normopathe a horreur qu'on perde notre temps à nous émerveiller. »
Le quatrième lambeau renchérit.
« Oui, et c'est pareil quand quelqu'un aurait envie d'échanger avec nous parce qu'il a vu qu'on lisait son livre de chevet. Eh bien non, le normopathe veille au grain, il est là sur ses grands chevaux.
Allons, allons, ça ne se fait pas, quelle idée fantaisiste. Parlez de ce qui nous émeut, comme ça, de but en blanc. »
Ou alors, quand on entend une chanson qu'on aime fredonner dans la rue,
« Un peu de retenue tout de même, on n'est pas dans une comédie musicale !»
Et voilà comment les humains se dessèchent peu à peu et ne savent plus communiquer entre eux qu'avec le langage froid et morbide du normopathe.
Les 4 lambeaux revinrent les jours suivants observer les termites. Au fil du temps, ces derniers se mirent à leur raconter des choses passionnantes sur leur terre d'origine. Et les lambeaux revenaient le soir à la veillée, la mine réjouie. L'écureuil chafouin, toujours prompt à s'amuser, trouva même qu'ils avaient un petit air espiègle, comme s'ils tramaient quelque chose. L'automne touchait à sa fin et les lambeaux suffisamment ragaillardis étaient enfin prêts à repartir dans le monde des humains par le puits qui s'ouvrait au cœur de la forêt. Lors de la veillée d'adieu, alors qu'ils étaient réunis autour du feu sous la voûte étoilée, les 4 lambeaux se levèrent en échangeant des regards entendus. L'un d'eux, coiffé d'une couronne de lierre, dit à l'assemblée « En collaboration avec les termites, nous avons préparé une surprise pour vous remercier de votre accueil. » Des exclamations enthousiastes traversèrent l'assemblée. Tandis que ses camarades disparurent derrière les taillis proches, le lambeau reprit. « Les termites nous ont parlé du chant des pistes, qui enchante leur terre d'origine. Les humains aborigènes qui l'habitent la foulent en chantant et en dansant pour se remémorer le temps des rêves, celui des ancêtres fondateurs qui, en découvrant l'immense espace vide, froid et sans vie des origines, s'y promenèrent en créant sur leur passage des lacs, des collines, des montagnes, des forêts et des rivières. Bref, tous ces paysages dont les humains ont hérité pour bien vivre. Les termites ont donné naissance à un instrument de musique qui appelle le temps des rêves, dit-il en désignant ses camarades qui revenaient en portant sur l'épaule 3 beaux didgeridoo. La colonie de termites les avait façonnés en creusant plusieurs jours durant l'intérieur d'un tronc d'eucalyptus. Les 3 lambeaux se mirent à les faire vibrer de tout leur souffle. On aurait dit qu'ils faisaient remonter les vibrations sourdes enfouies dans la terre. Les couleuvres d'Esculape trouvèrent leur chant si envoûtant qu'elles se mirent à se contorsionner au rythme des vibrations qu'elles ressentaient par toutes les écailles de leur ventre. Rosie était littéralement en transe, ses longues antennes pointées vers l'avant scandant le tempo. Alors qu'il continuait à bourdonner, le lambeau à la couronne de lierre se mit à conter le mythe des termites. Au commencement, tout était froid et sombre.
Bur Bugbun était en train de préparer du bois pour le feu afin d'apporter protection, chaleur et lumière à sa famille. Bur Bugbun remarqua soudain qu'une bûche était creuse et qu'une famille de termites grignotait le bois tendre au centre de la bûche. Ne voulant pas blesser les termites, Bur Bugbun porta la bûche creuse à sa bouche et commença à souffler. Les termites furent projetées dans le ciel nocturne, formèrent les étoiles et la voie lactée, illuminant le paysage. Et pour la première fois, le son du didgeridoo bénit la terre-mère, la protégeant, elle et tous les esprits du temps des rêves, avec ce son vibrant pour l'éternité. Cette fable est dédiée au peuple qui cultive un regard poétique sur le monde, à Roland Gori, qui nous éclaire sur la destruction de notre environnement symbolique, et qui a dit « Il n'y aura pas d'émancipation politique sans émancipation culturelle », et à Claude Vanier, militant d'ATD Quart-Monde, qui a durement lutté et écrit un beau poème intitulé « Je me sens seul au monde ».